Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Voilà, daron, un t-shirt de daron, mais très vintage aussi.
Ouais, oui.
Donc on aime beaucoup.
Potentiellement, tu peux être en école de commerce et dire c'est carré.
Je peux dire allez là avant un drop.
C'est
pas vrai?
Ce que tu viens de faire, c'est horrible.
Ouais,
là,
je sais.
Du front,
je sais.
D'une violence. J'aime pas suer du front. Horrible. Bonjour! Tout le monde a choisi le bonjour aujourd'hui. Nous sommes alignés comme les planètes, comme beaucoup de choses, comme les sourcils de certaines personnes chanceuses. Je suis Mathis Grosso, vous écoutez l'épisode 2 de Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff de la digression de Mademoiselle. Je suis entouré d'une bande de ce qu'on peut qualifier de doudingues, c'est le terme scientifique, autour de cette table. Et c'est le moment idéal pour improviser une question, puisque finalement je n'y avais pas réfléchi. Si vous étiez obligé de choisir un seul type de sac dans votre vie, quel sac seriez-vous? Je commence par toi, Marie-Stéphanie. Marie-Stéphanie, tu es la rédac-chef de Mademoiselle et tu vas nous dire quel sac tu serais.
Oh my god.
J'ai pas plus
quelle
idée de réponse
question.
Que vous parce que vraiment j'ai improvisé, genre mon cerveau
là.
A paniqué.
Alors, si je devais être un sac, genre du coup le seul et unique sac que du coup je pourrais porter toute ma vie finalement.
Oui.
Donc le sac qui me servirait de sac de voyage, mais également de sac pour la vie de tous les jours. Et aussi de sac quand j'ai pas la place d'avoir un sac, je sais pas, genre quand tu vas en concert ou où sais-je. Eh bien, elle est très compliquée, cette question, Mathis.
Je suis désolée.
Donc, je ne te remercie pas. Mais finalement, je pense que... je serais un 24 heures Gérard Darrel, parce que c'était mon premier sac.
Ah bah très bien.
Qu'il a une taille assez correcte, ma foi. Hein. Il a une taille qui permet de mettre un ordinateur, qui permet de mettre ton téléphone, ton chargeur, tes tampons, serviettes hygiéniques, ta trousse de maquillage. En soi, tu peux presque partir en week-end avec ton 24 heures si tu rajoutes très peu de choses dedans, à savoir, je sais pas, genre une culotte et un t-shirt de rechange.
Ouais, un week-end,
et là, tu
mais
le
pas
blindes
un date,
quand même. Okay. Non, voilà, ouais, vraiment, c'est...
Okay.
Pas un date, clairement. Mais voilà, je pense que je partirais sur ce sac-là qui se décline dans énormément de couleurs. Je me souviens, quand j'en rêvais adolescente, je me disais, ah tiens, le jaune, je pourrais le porter dans telle circonstance. Bon, au final, j'ai eu un noir parce que ça va évidemment avec tout. Mais voilà, donc à la fois pour la Madeleine de Proust que représente pour moi ce sac, à la fois pour son caractère pratique, parce qu'il est extrêmement pratique. Il est joli, il est passe-partout, il est pas... on l'aime bien.
Oui, puis le prénom Gérard est quand même rigolo, il faut dire ce qu'il est. Absolument.
Absolument.
Bon, un jour, peut-être dans ta vie, tu auras une pièce remplie de ce sac dans différentes couleurs, un peu genre la garde-robe d'Eva et Longoria dans Desperate Housewives.
Alors, j'avoue que je sais vraiment dans le contexte dans lequel j'aurais droit qu'à un seul sac. Hein, parce qu'entre-temps, ce sac m'a saoulée et je le porte plus et aujourd'hui, il est au fin fond de mon placard. Et voilà, même si, puisque je lis les articles d'Anthony Vincent, je suis au courant que le 24 heures est revenu à la mode.
Tout à fait.
Voilà.
J'ai dû googler le modèle, vraiment. Je ne sais pas. Je ne savais pas de quoi il s'agissait.
Moi, je sais parfaitement de quoi
c'est
il s'agit.
Un peu de millénial.
Non, alors j'ai regardé.
Là, on le voit partout dans la rue. Hein.
J'ai regardé et au lycée, effectivement, il y avait plein de meufs qui avaient ça dans mon lycée. Donc, si, c'est toujours un truc.
Et c'est une transition parfaite pour te demander à toi, Ariane, alias Ariquois. Ariquois, le haricot magique, finalement, de cette équipe. De demander quel type de sac tu serais si tu ne pouvais être qu'un seul sac.
Mais alors, moi, il n'y a aucune hésitation.
Et bah, c'est
super.
C'est-à-dire
que je serais...
N'hésite pas à nous répondre.
Ça avait avant de rentrer dans la pièce, quoi.
Je vais vous répondre.
Mathis m'a dit la dernière fois que je faisais dans LMK des réponses de politiques interviewées sur des plateaux, et c'est vrai. Vraiment, pour réfléchir en même temps. Bref, je serais évidemment un grand taux de bague.
Bah oui.
Parce que...
C'est ce que j'allais répondre.
Attends, tu peux le plier en mille, le mettre dans ta poche. Mm-hmm. Tu peux le porter comme ça et mettre plein de trucs dedans. Bon, évidemment, c'est difficile de retrouver les choses qu'on met dans son taux de bague. Et c'est un enfer d'organisation, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Il y a plein de designs, plein de couleurs. Pour moi, c'est évident que je serais un tote bag.
Et quel design et quelle couleur, du coup?
Ouais, tu peux avoir des slogans, tu peux avoir un tote bag.
Par exemple, Manon, qui travaille donc à la rubrique parentalité de Mademoiselle, m'a donné l'autre jour un tote bag violet avec dessiné dessus une meuf avec des poils sous les aisselles, les bras levés, seins nus, avec écrit « Dégage de mon trottoir ». Je pense que, franchement... Un comme ça, un peu plus grand parce qu'il est un poil petit, mais un peu plus grand, ça serait vraiment idéal, quoi.
C'est mieux qu'un tote bag Dassault Corporation. Donc ceci dit, c'est très bien.
Par exemple.
J'allais te rejoindre sur l'idée du tote bag parce que moi, je fais beaucoup mes festivals avec ça. Parce que souvent, tu arrives en festival, tu sais que tu vas avoir chaud, mais en même temps, tu sais que tu vas avoir froid en sortant. Du coup, souvent, j'ai mon sweat que je mets en boule pendant le truc et en fait, je le fous quand ça bouge pas trop à mes pieds. Et le tote bag, à la fin, il a le visage ravagé comme les personnes dans les témoignages, dans les documentaires difficiles.
Oh la vache.
Au moins, tu tiens pas trop, donc c'est pas grave.
Oui,
voilà,
c'est
pas très fragile en plus.
En plus, on en a chié partout des tote bags. Il y a eu une mode où toutes les boîtes ont décidé que globalement, elles en feraient un.
Exactement.
Parce que c'était écolo de consommer de l'eau pour créer chacun son truc en coton. Ah,
faut pas le dire, oui.
Donc, bref.
Mais en plus, tu peux le porter de différentes manières. Donc, soit à l'épaule, tu peux le mettre en bandoulière si les anses sont assez grandes, ce que je fais. Et tu peux aussi le mettre un peu en sac à dos. Avec une anse sur chaque
épaule. Ça,
c'est
pas très beau.
Moi, je voudrais bien.
C'est pas beau, mais ça peut être pratique.
Un street style Ariane tote bag.
De ouf.
Genre, les différentes façons de porter le tote bag.
C'est clair.
Incroyable. Ok. Voilà. Anthony, tu as eu une réponse très claire dans ta tête. J'ai vu tes yeux s'illuminer. Tu m'as fait facile.
Oui, bien sûr. Mais j'ai d'ailleurs avoir des avis tranchés. Mais juste avant ça, je voulais dire que sur le
tote bag.
Oui, non, évidemment, critiquer les tote bags, j'ai fait deux papiers sur le tote bag et le coton, et un podcast d'ailleurs sur le coton, et en fait, les tote bags, c'est effectivement généralement en coton, ce qui est extrêmement consommateur d'eau, et en fait, tout le monde en propose, les entreprises, mais aussi plein de marques, et en fait, c'est assez compliqué, surtout que c'est rarement recyclé, enfin, on les accumule chez nous et on s'en resserre pas tant que ça, finalement. Donc, voilà, c'est... Et surtout, en fait, il y a plein de marques qui revendiquent que leurs tote bags sont en coton, alors que ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup plus de coton qui est déclaré que réellement produit. Et donc, il y a un article qui sera en description de cet épisode qui vous informera à ce sujet-là. Et je vous renvoie aussi à l'épisode de Matières Premières sur le coton en général. C'est hyper intéressant. Ça raconte beaucoup de la société, de l'esclavage d'hier, Ouïghours, travail forcé d'aujourd'hui. Voilà. Après cette petite aparté...
Je joindrai quand même un droit de réponse d'Ariane qui sera un message d'excuse en vérité. Je joindrai au montage, je te laisse le rédiger dès la sortie de ce studio.
Je dis pas ça pour culpabiliser les individus. C'est
non,
pas
sûr.
Nous... Enfin, en fait, on n'est pas nécessairement responsable de notre consommation de tote bag. Hein. Juste éviter d'en acheter parce qu'on vous en offre déjà tellement sûrement.
Bien sûr.
Ouais. Voilà,
peut-être qu'Ariane ne l'a pas acheté son tote bag.
Qui achète des tote bags?
Comme je disais, Manon me l'a donné en le sortant vraiment d'un placard, voilà. En disant « Qui veut ça ?» J'ai dit « Moi ».
Ouais, non, mais rares sont les personnes à acheter des tote bags. Hein. Je crois qu'il y en a acheté un seul dans ma vie. Et c'était parce que les fonds étaient reversés à une asso de lutte contre, enfin, de prévention sur le cancer du sein. Bref, je serais évidemment un sac à dos. Je porte que ça. C'est très pratique. Et j'en avais un que j'adorais pendant 9 ans. Un modèle Tammy et Benjamin, qui est une créatrice japonaise qui a fait une marque avec son mec français. Et ils ont une boutique à Paris, rue de Poitou. Et en fait, c'était un tote bag que j'adorais parce qu'il s'ouvrait de manière contre-intuitive.
Sac à dos, pas tote bag.
J'ai dit quoi, excusez-moi?
Oh mon dieu, il s'est trahi.
Ah pardon, excusez-moi, lapsus pas du tout révélateur. Non, et en fait, en gros, il a l'air d'avoir une ouverture classique, mais en fait, il s'ouvre à l'envers. Du coup, t'es obligé de le déposer de ton dos pour pouvoir l'ouvrir. Et en fait, quand tu le portes, personne ne peut l'ouvrir. Donc, c'est un sac anti-vol, quoi.
Ah oui, oui.
Et,
c'est cool, ça.
Parce que c'est quelque chose qui m'angoissait assez quand je portais des sacs à dos classiques avant. Ouais. Et c'est presque ces 10 dernières années, j'avais ce sac qui est anti-vol. Et il était vert, en cuir, hyper robuste. Enfin, c'est ce que je croyais. Parce qu'au bout de 3 ans d'usage, et en même temps, 3 ans, c'est déjà bien amorti, eh bien... une anse a commencé à se découdre.
Oh non.
Donc je l'ai amené en réparation auprès de la marque qui me l'a réparé une première fois gratuitement. Ensuite, au bout de la 5e année, une autre anse a commencé à se découdre. Donc je l'ai re-ramené, ils m'ont dit cette fois-ci ça va être payant, et donc j'ai payé. Et en me disant, c'est le geste le plus écologique à faire en fait, de réparer un sac. En plus, il est en cuir et il coûtait une fortune au moment de l'achat.
Évidemment.
Et j'aurais adoré le racheter, mais en fait, ils ne produisent plus ce modèle, notamment parce que je pense qu'il y a un souci de conception qui fait que, en fait, les anses finissent par se détériorer, quoi. Et aussi parce que, j'avoue, la faute est aussi de mon côté, parce que, en fait, je trimballe énormément de choses dans mon sac à dos. Mmh. J'avais mon ordinateur, des bouquins, des carnets et mes rollers. Donc, ça fait beaucoup de choses dans un petit sac.
Bah, il faut savoir que tu prépares ta rentrée en sixième, donc tu es toujours avec tes trois parpaings et tes quatre bouquins d'histoire-géographie sur le dos. Hein,
non, en fait, j'adore, vraiment, on me reconnaît à mon sac à dos vert dans la rue assez facilement parce que j'adore avoir tout ce dont j'ai besoin sur moi et le sac à dos le permet assez facilement sans être trop encombrant. Et aussi, tout ça pour dire qu'au bout de 10 ans et de 3 réparations, puisque j'ai fini par l'amener chez d'autres cordonniers qui me disaient « Non, mais en fait, c'est un point cellier, donc il faut l'amener chez des celliers, donc des gens qui font des selles de cheval, quoi. » Et c'est aussi pour ça que c'est un sel plus résistant. Et en fait, au bout de la troisième réparation, j'avais fini par rembourser le sac en réparation, quoi. Donc j'ai arrêté de le réparer. Enfin, je l'ai réparé une dernière fois. Et maintenant, il me sert de cache-pot parce que je le trouve vraiment magnifique. Enfin, le cuir s'est tanné d'une manière extraordinaire. Et c'est un témoignage de ma vie, quoi. Enfin, donc voilà, incroyable. C'est un compagnon. Et donc j'en ai racheté un qui, au bout de 2 semaines, a commencé à me lâcher. Enfin, c'était n'importe quoi. Et il coûtait également une fortune. Donc j'étais vraiment très, très énervé contre une marque qui s'appelle Bleu de Chauffe, vraiment, qui était consciente qu'il y avait un lot défectueux. Donc vraiment, je ne les remercie pas. Bon, ils me l'ont réparé gratuitement, encore heureux. Mais voilà. Donc tout ça pour dire que je serais un sac à dos. C'était une très longue réponse. Je suis navré, mais vraiment.
Non,
c'est les sacs à dos sont sous-cotés, en fait. Genre, c'est sous-coté. Je ne comprends pas les gens qui... Enfin, si, je les comprends, parce qu'en fait, ça peut casser une silhouette, un sac, mais...
C'est vrai que ça casse dépend. Une silhouette, et ça fait suer du dos, ça, c'est pénible, j'aime pas ça.
Mm. Non, mais même un tote bag casse une silhouette, en réalité. Enfin, c'est...
Ah, oui, oui.
C'est encombrant, c'est un gros volume.
Non, mais de toute façon, le meilleur des trucs, c'est avoir un valet, mais bon, c'est compliqué.
Mais en vrai, après...
Quoi?
Ben, en vrai, oui, en vrai, en valet,
bah, oui.
En vrai...
Non, c'est pas du tout ce que j'allais dire.
Stagiaire de 3e, enchaîné à mon pied...
Point du tout, point du tout... ce que j'allais dire, non, c'est en vrai, quand je n'ai pas de sac à dos, c'est que je peux me passer de sac. Et du coup, je mets tout dans mes poches. Et voilà, parce qu'en fait, les petits sacs, à chaque fois, je me dis, mais en fait, tu peux pas dans tes poches, quoi. Enfin, ça dépend de comment t'es habillé, parce que ça m'arrive d'avoir des combis et de pas pouvoir avoir de poches, mais. Ou que ça casse la silhouette de la combi. Mais bref, je m'égare.
Quand tu prends dans le vestiaire féminin, malheureusement, l'option poche diminue tout de suite.
Totalement. Mais en vrai, il y a des marques qui proposent des vêtements avec systématiquement des poches. Donc en fait, une fois que vous les avez identifiés, ça va. Moi, je m'habille 80% en résilient femme. Mon pantalon, là, c'est un femme, c'est Frankie Shop, et il y a 4 poches. Et elles sont immenses, et elles sont très, très pratiques. Et ça m'arrive souvent de porter ce fut quand je ne veux pas avoir des sacs. Donc voilà, identifier les marques qui font des poches au rayon femme, vraiment c'est extraordinaire, ça change la vie d'avoir des poches.
Sinon, si vous êtes comme moi, vous en avez sous les yeux, c'est assez pratique. De mon côté, je suis un sac de couchage, car finalement, je déambule dans ma vie telle une chenille qui se traîne comme ça de soirée en soirée et qui a du mal finalement à dormir chez elle. Je rentre trop tard chez moi, non pas parce que je fais la fête, mais parce que je suis organisé avec les pieds, que je sais renoncer à rien et que je cours d'un endroit à l'autre en vélo. Vous reconnaîtrez que le sac de couchage est peu pratique en vélo. L'occasion de parler de cette polémique Vélib qui m'agace profondément, puisque que les anti-avortements ont collé des autocollants, ce que vraisemblablement, ils savent faire ça. Bon, je ne savais pas que leurs 3 neurones étaient capables de se connecter ensemble pour coller un papier. Ils le collent bien, hein. C'est difficile à décoller, il faut quand même le signaler. Mais j'ai pris un Vélib ce matin, sur lequel c'était écrit « Et si vous fermiez votre gueule, les fascistes ?» Et j'étais content de parader avec ce vélo. Et ma mère a liké la story. Voilà, fin de l'histoire.
C'est le petit moment actu de ma
société.
Parce que peut-être que pour recontextualiser un peu, voilà, vous retrouverez le papier, puisque c'est dans la nuit de hier à aujourd'hui.
Ouais.
On enregistre, on peut dire la date, on enregistre le 25 mai,
ouais.
Que un groupe de pro-vie a collé sur une centaine de Vélib partout dans Paris des affiches à vomir. Donc, pour se remettre dans le contexte de cette histoire, n'hésitez pas à aller lire le livre, allez lire l'article d'Elisa Covo.
On fait un livre à chaque sujet, nous. On y va à fond. Hein.
On aime bien diguer vraiment très profondément le sujet.
Puis on a le temps.
On a le temps.
C'est l'occasion parfaite pour enchaîner sur la rubrique des commentaires. Et comme vous le savez, on enchaîne beaucoup les tournages en ce moment, donc il est totalement possible que vous deviez. C'est du vieux français, ça n'est pas faux, c'est juste vieux, c'est daté.
Verbe d'oir, mais oui, mais.
Absolument.
Mais en même temps, tu as un valet, Mathis. Donc,
bah, j'ai un valet. Mais qui n'a pas
je
de valet?
Je hais cette époque.
Je hais cette époque. Michel Sardou, pour celles et ceux qui ne savent pas. Un grand moment de radio. Est-ce que vous avez des commentaires, Marie-Stéphanie? Est-ce que tu en as un?
Non, pas du tout.
Ok, bon, bah très bien.
parce que mon seul et unique commentaire reçu depuis mon arrivée dans l'MK, je l'ai épuisé. Enfin, attends, je vais regarder. En même temps, je n'ai pas regardé depuis hier. Je l'ai épuisé hier en enregistrant le dernier épisode. Donc, je n'ai pas de commentaires. Mais envoyez-moi des commentaires, écrivez-moi.
Absolument.
Envoyez-moi vos pensées, envoyez-moi de l'amour, envoyez-moi tout ce que vous voulez.
De l'argent. Haricot.
Haricot magique, désolée de vous décevoir, je n'ai pas non plus de commentaires.
Est-ce que tu as une chanson en revanche à nous chanter?
Laissez-moi danser. Ah,
oui,
une chanson.
Laissez-moi kiffer.
Non.
Laissez-moi kiffer. Ah oui, il faut changer le générique, on a dit.
Non, c'est Tina Turner aujourd'hui, les gars.
Ah oui, elle est malheureusement.
Parce que, comme j'ai dit, on est le 25 mai au moment où on enregistre et c'est encore le moment actuel.
Est-ce que si on la remplace, on peut parler de Tina Turnover? Je pose la question ici à méditer chez soi.
J'aimerais trop savoir si Afida Turner va toucher de l'argent.
Oh putain.
C'est voilà. Et encore mariée.
J'aurais fait un article direct là-dessus.
Bah alors, mec, belle-mère.
De ouf. Bah oui.
C'est vraiment la première question qui me traverse.
Il n'y a plus aucun lien.
Je sais pas. Anthony, est-ce que tu as un commentaire? C'est mon option look over there.
Eh bien non, j'ai l'habitude que les LMG me détestent, donc je n'ai pas de commentaire.
C'est un épisode ouin-ouin aujourd'hui. Alors moi, j'ai mieux qu'un commentaire. J'ai Lorenza qui m'a envoyé le commentaire haineux de quelqu'un d'autre sur une sandwicherie dont j'ai pas le nom, mais c'est pas très grave parce que le commentaire est suffisamment désagréable pour que je m'en veuille finalement si je l'associe à une sandwich. C'est compliqué à expliquer. C'est une personne qui s'appelle Crystal. Je comprends que déjà elles sont en colère et elle écrit « Dommage que je ne puisse pas mettre 0 étoile tellement ce fut horrible. J'aurais pu manger du carton que cela aurait été probablement plus goûtu que l'insulte que j'ai dû offrir à mes papilles pour la modique somme de 9,99€. En effet, en dépit de l'accueil chaleureux, le plat en lui-même était chimiquement incompatible avec mon âme et je fus contraint d'en laisser les 3/4 dans la poubelle en sortant. Je pense que même le cuir de mes Air Force One aurait été plus agréable tellement la texture du sandwich semblait venue tout droit d'une usine à plastique. Il joue sur une image de marque qui se veut haut de gamme, mais c'est en réalité de la même qualité que les ceintures Gucci de Port de Clignancourt, et encore, c'est presque insulter les contrebandiers en disant cela. Bref, à éviter... c'est chaud.
Contrebandiers ?
Oui. Bref, à éviter absolument, sauf si vous voulez développer un cancer du côlon avant votre 30e bougie. Voilà, c'est un commentaire de 2022 de quelqu'un qui allait mal. J'espère que la personne va mieux.
Elle a vécu quoi, cette personne, pour écrire tout ça ?
Un sandwich compliqué, un sandwich visiblement. Voilà, donc je vous incite, si vous voyez des commentaires haineux absolument démesurés et dramatiques, à me les envoyer, car c'est ma chose préférée de la Terre.
T'aimes trop partager la haine, Mathis.
Absolument.
Mais cette personne, déjà, pourquoi? Et ensuite, elle semble avoir terminé les sandwichs. C'est ça qui m'interroge.
Non, elle a laissé les 3/4 dans une poubelle à côté, quand même.
Mais attends, en une bouchée, elle a réussi à se rendre... Oh mon Dieu!
Qu'est-ce? Non! Viens!
Non!
Viens!
C'est Virginie qui part.
Viens!
Non, c'est un moment compliqué pour vous à l'audio, donc je vais le décrire. Virginie, notre rédactrice beauté, s'en va.
Qu'elle va à la poubelle.
Et elle va à la poubelle. Fin de l'audio description.
J'espère qu'elle va à la poubelle.
Voilà, du coup, Lorenza, merci de m'avoir envoyé ça. En fait, moi, ce que je trouve drôle là-dedans, c'est qu'il y a un niveau de haine que les gens peuvent atteindre que du coup, je trouve après un peu pathétique. Genre, c'est trop de haine pour que ça puisse blesser, tu vois. Mais c'est pas assez retenu et mesquin.
L'énergie que ça demande.
De ouf.
C'est un truc vraiment...
C'est ça qui me fascine.
Pourtant, moi, j'adore laisser des commentaires Google.
Et
j'ai beaucoup de badges sur Google. Voilà. Je suis local guide.
Attendez, on peut avoir un badge sur Google?
On peut avoir beaucoup de badges.
Local guide, tu l'atteins à partir de combien de commentaires?
C'est pas une question de nombre de commentaires, c'est en fonction de... Écoutez,
le
vous avez prévenu
correct.
Que je suis une vieille âme.
Bon rapport qualité-prix.
Voilà, donc je laisse des commentaires. Et oui, en fait, on peut être local guide et avoir des badges en fonction, oui, du nombre de commentaires que l'on laisse, mais également en fonction... Mathis est mort de rire. Mais également en fonction du nombre de personnes qui voient les commentaires.
Ah.
Et en fait, plus les gens voient ton commentaire, plus ton commentaire remonte.
Toi, t'es en top des commentaires.
Tu t'appelles influencieuse.
Pas en top, mais je suis influencieuse.
Incroyable.
Mais en plus, alors moi, je laisse assez rarement des mauvais. Enfin, franchement, et là, oui, effectivement, l'énergie déployée. Et
c'est vachement sympa de laisser des bons commentaires aussi.
En fait, dans la mesure où j'utilise énormément l'outil avis Google quand je vais quelque part et quand je sais pas où aller, je me dis autant, apporter ma pierre à l'édifice
et permettre à un ou une future consommatrice
d'être
informée.
Non mais c'est vrai, autant je suis plutôt contre la notation en général et qui s'est généralisée même dans les services publics, je vous enjoins à écouter un podcast qui s'appelle Noter je sais plus quoi, de Programme B, dont vous aurez la référence un peu plus complète dans la description, mm-hmm. et qui parle justement de cette espèce d'aberration d'avoir généralisé le système de notation et où en fait il y a des carrières maintenant qui dépendent de ça, notamment les chauffeurs des plateformes type Uber, etc. Et par contre, bah, pour les restaurants, etc., c'est vrai que quand vraiment c'est très bien et que j'y vais souvent, je finis par mettre un petit commentaire et tout, parce que bon, ça fait plaisir, ça mange pas de pain. Et puis voilà. J'ai jamais trop quoi écrire en revanche. C'est comme sur les Blablacar, là, les vieux où tout s'est bien passé, ils te mettent 4 étoiles au lieu de 5. Ça m'énerve, ça me tend. Qu'est-ce qui vous manquait? Qu'est-ce qu'il fallait faire de plus? Je sais faire la roue. Demandez-moi. Ça me rend fou. L'occasion parfaite d'enchaîner sur un LMK pratique de Tiffaine Desloges,
oh, yes.
qui date un petit peu et qui nous a dit: coucou LMK, j'espère que tout va bien. Merci de mettre du soleil dans nos vies. Je vous envoie ce petit message pour la nouvelle section de l'émission. Donc, pour que ce soit une nouvelle section, c'est que ce commentaire date de 2013. Style courrier du cœur et tout. En gros, j'ai 20 ans et je suis à la fac, donc elle a désormais 37 ans. Assez rapidement, je me suis constitué un petit groupe de potes et assez rapidement, je... Non, c'est elle qui a répété. C'est pas ma faute, les amis. J'ai eu ce qu'on pourrait appeler le coup de foudre, c'est-à-dire qu'on était au café, j'ai croisé son regard et je me suis dit, merde, c'est foutu.
C'est romantique.
Absolument, j'ai vécu, je déconseille. Donc, j'ai assez longtemps crushé sur lui, mais pas de réaction. J'ai donc fini par laisser tomber, essayer de me raisonner, sauf qu'à la reprise du deuxième semestre... Je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout passé. Il faut dire que mes amis ne m'aident pas trop, car elles sont dans le flou et ne comprennent pas trop ce qu'ils pensent de moi, ce qui nourrit un peu l'espoir. Le problème, c'est que vraiment, le gars n'est pas réceptif, et que si un jour je vais me dire que ça peut le faire, bah, le lendemain, je me dis qu'il faut être réaliste et laisser tomber. Du coup, ma question, c'est 1. Comment savoir ? 2. Est-ce que je risque de lui dire les choses clairement, sachant que si je me prends un râteau, ça va être gênant vu qu'on fait partie du même groupe et qu'on traîne tout le temps ensemble ?
J'ai vécu cette histoire, donc là, je ne peux pas vous dire mieux.
Yes. C'est pas une réponse. Enfin, je peux vous dire mieux.
Et donc,
qu'est-ce que t'as fait?
Ben, je vais vous répondre.
Mais moi, je pense que il faut dire. Oui. Il faut pas perdre de temps.
Oui.
C'est horrible, c'est une perte de temps. Tu te fais des films, la nuit, tu t'en rêves, alors que peut-être c'est pas réciproque, comme c'était dans mon cas. Et en fait, spoiler, c'était pas gênant. Hein. Enfin,
c'est rarement gênant.
J'en ai remise.
Mais bien sûr.
C'est rarement aussi gênant que ce qu'on s'imagine en fait. Enfin, ça peut l'être un peu sur le coup vite fait parce que c'est pas la conversation la plus fluide de la Terre, c'est pas la machine à café, mais je trouve que ça dissipe la gêne. Je sais que moi après j'ai vécu ça et j'en ai parlé pareil et c'est devenu une blague récurrente dans le cercle d'amis au point que ce soit beaucoup et que je doive en parler au cercle d'amis en disant dis donc les amis, si on pouvait arrêter de me miskin 7 fois par jour, ce serait quand même chouette. Mais voilà, c'est des situations qui peuvent être dédramatisées et Dieu sait que je n'aime pas dédramatiser les situations. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Stéphanie, Anthony ?
Ouais, moi je suis assez d'accord. Honnêtement, je trouve qu'il n'y a rien de bon dans le non-dit, que ça peut créer un malaise qui sera peut-être encore plus important que celui qui pourra exister si tu dis les choses. Non, moi je pense qu'il faut, il faut dire, il faut y aller, et puis ça marche, tant mieux. Ça marche pas, c'est pas grave, tu passeras à autre chose et ce sera potentiellement mieux.
Trop bien.
Je rigole parce que je viens de me rappeler que j'ai écrit une chanson pour cette meuf.
C'est pas vrai.
J'ai écrit des chansons pour beaucoup de gens.
Tout ça pour essayer de la sortir de ma tête parce que vraiment, c'est... en fait, mais avant de le lui dire, c'était, j'y pensais en permanence, c'était pareil. Quoi.
Bientôt, c'est une session d'écoute de nos deux chansons,
oh,
on comparera
oui.
si tu veux.
Oh oui, avec grand plaisir.
Ça t'a permis de la sortir de la tête?
Mais
ou
un peu.
Au
elle est pas au courant, donc.
Moi, je la chantonnais quand j'allais mal après sur
non,
le vélo.
En plus, je la rechante, enfin, régulièrement. C'est pas du tout cringe pour moi, mais
j'ai
voilà,
trop hâte.
Ça m'a permis de un peu de dédramatiser, je sais pas.
Voilà. Donc, réponse numéro 3, écris des chansons.
Écris une chanson, ça va t'aider.
Oui, je serais aussi d'avis de dire à la personne, parce qu'en fait, déjà, c'est se jeter un peu dans le vide, mais en sachant qu'il n'y a pas de risque mortel. Enfin, dire qu'on ressent des sentiments pour quelqu'un ou qu'on a un crush, c'est valorisant pour l'autre, mais ça ne va pas vous tuer, en fait, si ce n'est pas réciproque. Et aussi, effectivement, ça vous permet peut-être de passer à autre chose, d'arrêter de vous faire des films si ce n'est pas réciproque. Mais ça se trouve, ça l'est, en fait. Donc, il faut aussi envisager la possibilité que ce soit positif.
C'est vrai qu'on part du principe que ça ne va pas marcher parce qu'on s'est appris tellement de radeaux.
Voilà, moi, ça n'a pas marché.
Tant qu'on s'y amoche.
Alors que je pensais que c'était réciproque. C'est ça le pire. Moi, c'était presque
ouais,
gênant.
Moi aussi.
Je pensais vraiment que c'était réciproque, mais de ouf, quoi. Et du coup, quand je me suis révélée, qu'elle m'a dit... Non.
Mais on m'a déjà dit, je préfère qu'on reste amis avec des gens avec qui j'étais pas amie, c'était compliqué.
Moi, ça m'est arrivé récemment, ces 3-4 derniers mois, et on avait eu 3-4 moments que j'estimais être des dates, et au bout de la quatrième fois, cette personne m'a dit quelque chose et je lui dis et ensuite elle m'a retourné une question, elle m'a dit toi tu dates en ce moment, j'ai dit bah écoute moi j'ai l'impression qu'on se date en fait.
Wow.
Et il m'a dit ah bah non, et je lui ai dit bah oui du coup ça répond à ma question parce qu'en fait tu m'intéresses plus que amicalement, il m'a dit d'accord bah c'est gênant, et je lui ai dit oui effectivement, et après on a parlé d'autres choses et depuis c'est
politique,
un chouïa bizarre mais ce n'est pas grave, enfin ouais. c'est je suis content de m'être lancé et d'avoir dit parce qu'en fait c'est beau de ressentir des choses, des sentiments aussi ouais. forts, enfin l'élan l'engouement c'est génial. Je suis content de l'avoir.
Il y aura peut-être de la musique sur cette tirade que tu viens de faire. Anthony, j'ai beaucoup trop hâte d'entendre ton kiff parce que je vois le livret que tu as dans les mains. Je n'en dis pas plus, c'est le moment de balancer le jingle.
Jingle. Fini de rire avec vos putains de digressions. C'est l'heure de taper dans le fond car le temps c'est du pognon. Ah ouais. Fini de rire et de dire des trucs au pif. C'est l'heure de lâcher vos kiffs. C'est l'heure de cracher vos kiffs. C'est maintenant.
Waouh,
merci Valentin.
Coordination. Merci beaucoup pour ce moment musical qui fera regretter à toutes les auditeurices d'écouter finalement ce podcast. Marie-Stéphanie, c'est quoi ton kiff?
Waouh, it's my turn.
Oui.
Alors moi, mon kiff, c'est une série que j'ai découvert il y a très peu de temps, qui pourtant n'est pas une série récente. Et cette série, puisque je vous tease, c'est Fleabag.
Oui, c'est un grand oui. C'est un grand
oui. Que j'allais avoir des amoureux de Fleabag
et
Fleabag
oui.
comme moi. Découverte incroyable. En fait, j'ai littéralement découvert Fleabag à travers le livre de Pandora Sykes, qui est une journaliste anglaise et qui parlait de cette série en disant que c'était une de ses séries préférées. Je me suis dit, quelle est cette série qui a l'air incroyable et que je ne connais pas ? Je connaissais Phoebe Waller-Bridge, mais je ne la connaissais pas à travers Fleabag. Et ce qui est absolument incroyable, parce que c'est un peu ce qui...
c'est rare de la connaître, elle, et de ne pas connaître
ouais,
la série.
Ouais, ouais, je suis d'accord.
Enfin, Phoebe Waller-Bridge va avec Fleabag, et Fleabag va avec Phoebe Waller-Bridge. Et bref, j'ai commencé cette série pas plus tard qu'il y a 5 jours. Et bon, après, c'est 2 saisons, donc ouais.
Ça va très vite.
Ça va très vite, c'est assez rapide.
20 minutes, je crois.
Et je l'ai... Ouais. C'est une vingtaine de minutes. Et je l'ai littéralement bouffé.
J'ai déjà fini.
Ah oui, et j'ai envie de la re-regarder.
Ah, c'est trop
ce
bien.
Qui la place dans mon panthéon de mes séries préférées. Et je suis trop contente d'avoir trouvé une nouvelle série préférée. Parce que j'adore, c'est ce que je préfère, c'est re-regarder des séries ou des films que j'aime bien. Je suis très peu nouvelle série, nouveaux films. Je suis un peu routinière. Et... Bref, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Fleabag, c'est donc une série qui a été imaginée, réalisée, interprétée par Phoebe Waller-Bridge et qui met en scène la vie d'une trentenaire londonienne. Alors, autant vous dire que déjà j'adore parce que j'adore Londres, où j'ai habité pendant plus de 6 mois, qui est une de mes villes préférées et une des villes dans lesquelles j'aurais aimé vivre si je n'avais pas vécu à Paris. Et c'est la vie de cette personne, Fleabag, qui a la trentaine, qui est complètement fucked up dans sa tête et dans sa vie. Et en fait, ce qui est chouette, c'est que il y a une sorte de mise en abîme où Fleabag nous parle en même temps qu'elle est avec les autres personnages de la série. Je vais pas tout spoiler. Mais voilà, en gros, la trentaine, elle a un petit café à Londres qui ne marche absolument pas, qu'elle avait monté avec sa meilleure amie qui est décédée, et elle a une famille qui est complètement fucked up aussi, enfin, c'est assez improbable, entre son père, sa belle-mère complètement folle.
Personne ne s'est communiqué parce que c'est des Anglais. Donc,
c'est voilà. Ça, moi ça me fait beaucoup rire. Notamment la scène où, sans trop spoiler, encore une fois, c'est au début de la série, mais où le père tente de faire un discours et c'est tellement gênant.
Oui. Je vois parfaitement.
Et il est là. Ok, thank you for being my family. You are my
family. Et ça dure comme ça pendant 5 minutes. Et t'es là, genre, non, arrête.
En plus,
arrête,
t'as les regards encourageants de tout le monde. Oui. Tout en mode, allez, vas-y, va au bout, on est avec toi. Vas-y, Jean-Mich.
C'est
ça vient pas.
C'est globalement, drôle. C'est tout l'humour de.
Oui.
C'est gênant, quoi. Là. C'est que une succession de moments gênants avec des regards cams, c'est hilarant. Enfin,
ouais, tout est extrêmement, extrêmement gênant. Et c'est ça qui est extrêmement drôle. Je pense qu'il y a les personnes qui n'aiment pas les films et les séries dans lesquelles il y a de la gêne, bah, ne regardez pas parce que
c'est ça, c'est clair.
C'est aussi un peu trash. Moi, c'est le retour que j'ai eu de personnes qui l'avaient vu et qui n'avaient pas aimé. Ces personnes trouvaient que c'était trop trash, que c'était trop. Ouais.
Oh là là, on a parlé de fesses.
Ben, c'est vrai qu'en plus, je crois que la saison 1, elle est interdite au moins, enfin déconseillée au moins de 18 ans carrément.
Oui. Ah
enfin,
ouais,
c'est, ouais.
Parce qu'il est question d'anus, vite fait, c'est ça, non?
C'est ça, puisque la scène d'ouverture, c'est la scène de sexe avec, avec
le
plan cul. Voilà, mais oui, parce qu'il y a des gros mots, il y a des scènes de cul, il y a de l'alcool, il y a de la clope, et c'est évidemment tout ce qui déplaît. Notamment à ce genre de plateforme, puisque je vais regarder sur une plateforme. Mais ouais, non, c'est une série qui est aussi hyper féministe. Et il faut quand même rappeler que c'est 2010, je crois, Fleabag. Donc c'était
possible que ça remonte,
Moi, j'ai découvert il y a pas si longtemps non plus.
Alors la série est adaptée du one woman show de Phoebe Waller-Bridge. Donc peut-être
qui
me
repasse en ce moment à Londres, enfin la version captation au National Theatre en ce moment, parce que je vois des pubs sur mon TikTok du National Theatre, qui était le théâtre où j'aimais trop aller à Londres, qui est semi-public, un des rares, profiter. Voilà.
Mais trop bien, ça me donne envie d'aller à Londres, tu vois.
Bah voilà, moi j'y retourne bientôt et je pense pas que j'aurai l'occasion de le voir, mais si jamais vous êtes dans le secteur, n'hésitez pas.
Mais grave. Donc, Fleabag qui vient d'entrer dans le panthéon de mes séries d'amour et voilà, que je recommande vraiment à tout le monde si vous voulez vous marrer, si vous aimez l'humour un peu cringe, si vous aimez aussi Londres et si vous aimez les questionnements existentiels de la vie, puisque c'est un peu de ça dont il s'agit aussi, les relations amoureuses.
C'est hyper profond.
Le taf, c'est hyper profond. Et ce qui est bien fait aussi dans Fleabag, et je sais pas vous, quand est-ce que vous l'aviez remarqué, mais moi je crois que c'est à partir du troisième épisode où je me suis dit, en vrai on sait pas comment Fleabag s'appelle son père il s'appelle papa, sa belle-mère elle s'appelle la belle-mère, je sais plus comment elle, Crazy ou je sais plus comment elle l'appelle, Crazy Mother-in-Law ou un truc comme ça.
Evil Stepmother, je crois que c'est
Evil Stepmother. Et pareil, le priest, c'est le hot priest.
Oui, c'est vrai.
Tout au long de la série. Et c'est une prouesse, je trouve, de réussir à.
Oui, elle
à
le
faire
tient
ça.
Bien. Ouais.
Ouais.
C'est trop bien. Mais ouais, moi, je sais que c'est une série que j'ai beaucoup re-regardée et qui me fait toujours autant rire et puis qui me fait beaucoup pleurer. Enfin, la saison 2 me fait mes chialax.
Mais grave!
Et plus je la regarde, plus je pleure, je devrais pas être surpris. Et je me souviens que j'étais avec mon ex-copain à la re-regarder, lui faire découvrir et tout. Genre, vraiment, on a dû mettre en pause l'épisode parce que j'étais dans un état lamentable. Et j'étais incapable de me calmer. J'étais en train de me dire, je sais pas, je trouve ça juste trop fort. Et voilà. Mais après, je suis cette personne, vous le savez. Voilà, blablabla.
Mais non, mais je comprends, franchement.
C'est
pareil. Enfin, je m'attendais pas. Et en plus, vu le type de série que c'est, tu t'attends pas à avoir envie de chialer.
De ouf. Mais... Et ça prend grave par surprise. Et voilà, tu rigoles au début, t'es en mode, ah, Olivia Colman, elle est horrible, machin et tout. Et puis après, en fait, c'est plus subtil que ça. Et il y a plein de trucs qui se jouent en creux. Et bah, genre, comment aimer les gens autour de soi. Et rien que cette question, en fait, elle résonne évidemment avec, je pense, plein d'existences. Je vous renvoie aussi vers l'épisode de LMK où Aïda parlait du livre qui, je crois, est le scénario, en fait. Ça doit s'appeler Fleabag, The Scriptures. Et voilà, Aïda en parlait certainement mieux que moi dans un épisode que je vais vous mettre dans la description car je serai compétent plus tard. Voilà. Est-ce que c'est bon pour toi ?
Ouais.
Je crois qu'il y avait aussi un article hyper intéressant qui a été publié sur The Conversation, qui est un média de vulgarisation d'articles de recherche universitaire. Donc c'est vulgarisé avec l'aide de journalistes pour rendre le tout plus digeste. Ils avaient fait un truc sur l'humour cringe et pourquoi ça a fasciné autant les gens dans les séries et les films dernièrement, ces dernières années. Et je regarde très 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 peu de séries, du coup j'ai pas regardé Fleabag, mais apparemment c'est génial effectivement. Et mais ça me fait penser à une autre série que j'avais adorée, qui est Chewing Gum de Michaela Cole.
Et I May Destroy You, c'est la même
aussi effectivement. Et du coup c'est vraiment l'une des rares chose que j'ai vue avec de l'humour cringe, et que j'avais adoré, et c'est aussi britannique, et je me demande si les Britanniques ne le font pas mieux que personne.
Oui, je pense.
J'adore. Bonne question.
On adore les Britanniques.
Ouais, je pense qu'il y a un vrai plus là-dessus. Ariane, qu'est-ce que c'est que ton septième kiff, sixième, je sais pas. Qu'est-ce
moi,
que c'est que ton
kiff? C'est quand même le t-shirt d'Ariane, hein, pardon, je l'ai pas et dit, mais je pense qu'il faut quand même le préciser. Un hein, t-shirt golf. Avec The Golf dessus et une Golf année...
Une Volkswagen.
Année.
Alors là, par contre, vous me posez...
Vraiment un numéro de daron.
90, 80...
Vraiment un t-shirt de daron.
Voilà, un t-shirt de daron, mais très vintage aussi.
Ouais, oui.
Donc on aime beaucoup.
Potentiellement, tu peux être en école de commerce et dire « c'est carré ».
Je peux dire « allez là !» avant un drop.
C'est
pas vrai?
Ce que tu viens de faire, c'est horrible.
Ouais,
là,
je
sue du front, mais d'une violence. Et j'aime pas suer du front. Horrible. Ariane, c'est quoi ton kiff avant que je te sorte de cette émission?
Ah oui, bah j'imagine. Alors, moi, aussi étonnant que ça puisse paraître, parce que je ne joue jamais aux jeux vidéo, mon kiff est un jeu vidéo.
Incroyable.
En gros, j'ai pas de console. J'ai jamais eu de console parce que mes parents étaient absolument contre tout ce qui se rapprochait de près ou de loin d'un écran quand j'étais petite. Et du coup, j'ai pas du tout la culture et le truc de jouer à des jeux vidéo. Mais récemment, on m'a prêté une Switch et je joue à Disney Dreamlight Valley. Et en gros, c'est super. Ça faisait longtemps que j'avais vu qu'il était sorti. Et en fait, c'est un peu un Animal Crossing-like. Sauf que je n'ai jamais joué à Animal Crossing, donc je ne peux qu'imaginer. Mais en fait, donc c'est un jeu Disney. Je ne suis pas particulièrement fan de l'univers de Disney ou quoi. Mais ce qui est chouette, c'est qu'en gros, c'est un univers dans lequel qui a été englouti par une force maléfique. Et on joue le personnage qui va ramener la paix dans cet univers. Et le but du jeu, c'est d'aller rechercher plein de personnages du coup de l'univers Disney pour les ramener dans ce village dans lequel ils habitaient avant que les forces ténébreuses n'aient pris le pouvoir. Et en fait, c'est tout un tas de petites quêtes, de petits défis et tout qu'il faut réaliser pour pouvoir ramener ces personnages et pour que ils se rappellent de l'existence du coup de ce monde, parce que à cause des forces ténébreuses, ils ont tout oublié. Et du coup, c'est notre rôle. Et ce qui est super chouette, c'est que y a une map qui est plutôt grande, avec plein de trucs à découvrir, plein d'univers à découvrir au fur et à mesure, plein de petits objets à collectionner comme dans Animal Crossing. On peut pêcher, on peut chasser, enfin chasser non, mais on peut creuser pour trouver des objets. Et en gros, plus t'avances dans le jeu, plus t'as des personnages qui se débloquent, et je trouve ça super chouette de découvrir un peu bon, du coup je vous spoil pas qui est-ce qui est présent dans le jeu, mais
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est hyper chouette de faire ces petites quêtes-là et de découvrir au fur et à mesure qui est-ce qui vient habiter dans ton village.
Est-ce qu'il y a des gens famous?
Bah, des personnages famous de Disney, ouais.
Oh.
Mais c'est trop chouette. Et ils ont chacun, du coup, leur petite maison en accord avec leur univers du dessin animé duquel ils sont extraits. Et en vrai, je trouve ça super chouette. Ça me divertit bien, on va dire. Et pour moi, qui n'ai joué que vraiment à 3 jeux vidéo dans ma vie, je trouve ça
Mimi serait en larmes, elle serait très fière de toi actuellement.
Voilà, mais on a parlé à un moment, elle parlait de Stardew Valley, et c'est donc un des 3 jeux vidéo auxquels j'ai déjà joué et que j'avais saigné quand j'y ai joué. Mais ça ressemble un peu à Stardew Valley, hein. On peut faire pousser des légumes, on peut faire pousser des trucs, voilà.
Et t'as dit que t'avais pas de console?
Non.
Quand tu joues, c'est tu joues en ligne?
Bah du coup là, avec on m'a prêté une Switch.
Okay.
Avec mon interphone, je joue. Pas vous.
T'as des jeux sur ta compte Linky.
Voilà.
Mais il y a, enfin, en vrai, il y a moyen de faire des trucs hyper bizarres avec des consoles parfois, genre. Il y a des gens qui arrivent à tweeter avec une Nintendo DS, par exemple. Ah ouais. Tu vois, enfin, c'est vraiment. Il y avait un mime comme ça, oui, hyper drôle sur Twitter, de quelqu'un qui se faisait confisquer ses appareils électroniques au fur et à mesure. D'abord son téléphone, ensuite son ordinateur, ensuite sa Nintendo DS, parce qu'il arrivait à tweeter sur sa Nintendo DS. Ouais. Et après, il envoyait un tweet depuis son frigo.
Ouais.
Mais ça, je pense que c'est faux, tu vois. Mais,
Alors, en vrai, je pense que c'est possible, parce que oui, maintenant, les frigos, je veux dire, tu peux aller sur Internet avec, oui, hein, avec des écrans, tu peux aller sur YouTube et regarder ta recette pendant que tu. Ah bah, c'est l'époque, voilà. Hein. C'est l'époque.
Oui, c'est vrai. Je me souviens, mon ancien colocataire avait une espèce de robot ménager, de robot pour faire la cuisine. Et en fait, tu pouvais aller effectivement sur YouTube pour regarder des tutos. Donc ouais, peut-être que tu peux regarder d'autres choses.
Bah, enfin, je pense vraiment. Hein.
Vraiment, on n'arrête pas le progrès.
Tu mettais un film sur ton frigo, c'est chelou quand même, non?
Tu restes devant ton frigo.
Franchement, pour cet été, moi, je prends. Hein.
Pas faux.
Voilà, donc ça, le jeu s'appelle Disney Stardew Valley et c'est super chouette.
Trop bien. Eh ben, ça sera une transition toute choisie, je pense, pour le kiff d'Anthony. Anthony, c'est quoi ton kiff aujourd'hui ?
C'est vrai.
Alors, j'ai beaucoup hésité à en parler parce que la pièce cesse d'être jouée demain, au moment où on enregistre.
Quoi ? Oui. Je vais rater, je suis
Mais
goûté.
Elle tourne, elle tourne.
Mais je me doutais, parce que vu le succès que ça semble avoir et vu l'intérêt, enfin, à quel point la pièce est dingue, j'espérais bien qu'elle tournerait, et c'était presque sûr, quoi. Donc, c'est une pièce de théâtre qui s'appelle Daddy. Et c'est très drôle que j'en parle dans l'MK vu ma façon de parler de Daddy dans chaque épisode.
Oui.
Mais donc Daddy de Marion Sieffert qu'elle met en scène et qu'elle a coécrite avec Mathieu Barrère, et c'était joué à l'Odéon ces dernières semaines, du 9 au 26 mai 2023, donc c'était assez court, mais bordel, je m'en suis pas remis. Je l'ai vu hier soir parce que j'avais une copine qui jouait dedans, et en fait elle joue la danseuse Jennifer Gold, c'est le nom de l'interprète, de l'actrice, de la comédienne, et bref, donc contexte, Daddy, c'est une pièce de théâtre qui dure 3h30, qui était jouée du coup ce mois de mai à l'Odéon, qui est un théâtre hyper classique à l'italienne et tout, et Daddy joue complètement sur joue à faire plein de va-et-vient entre le virtuel et le réel, entre l'IRL et le métavers. Et en fait, ça suit l'histoire d'une jeune femme, très très jeune fille en fait, pardon, une adolescente, elle a 13 ans, elle s'appelle Mara, et elle rêve de devenir actrice. Et en fait, elle est la fille de deux personnes, donc un agent de sécurité et une infirmière en réanimation. Et en fait, elle trouve que ses parents sont un peu des beaufs, ils vivent à Perpignan, ils ont un accent du sud assez prononcé, et en fait, ils en parlent dès le début de la pièce en disant « Ah, dès qu'on va à Paris, on se moque de nous », et en fait, ils parlent du mépris de classe qu'ils subissent,
ouais.
Et Mara leur renvoie un peu parfois à la gueule un peu de mépris aussi. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que la scène qui... Enfin, non, pardon, je vais vous dire dans l'ordre. En gros, quand le rideau se lève, quand la pièce commence et que le rideau se lève, on a tout de suite un jeu vidéo en grand écran qui est projeté sur toute la scène. Et donc, ça va très vite. On est plongé d'emblée dans le virtuel avec beaucoup de couleurs, beaucoup d'interactions. C'est un jeu vidéo de plateau, un peu du jeu de rôle, avec Mara qui est en voix off, qui raconte qu'elle est en train de tuer des ennemis et tout. Et elle est avec un acolyte qui est un homme, manifestement, qui est aussi en voix off. Donc, en fait, elle a sans doute un casque pour jouer avec d'autres personnes dans ce jeu qui réunit plein de personnes différentes dont on ne connaît pas le visage, l'identité, etc. Et en fait, il y a un autre joueur qui débarque, avec qui ils interagissent. Et en fait, d'emblée, le joueur est hyper séduisant. Enfin, mais vraiment, il a dit 2-3 blagues et même moi, j'étais séduit. Mmh. Et ensuite, le jeu s'interrompt hyper brutalement parce qu'en fait, le père de Mara dans la vraie vie coupe Internet à sa fille qui a 13 ans. Et en fait, il exerce une forme de contrôle parental. Il gère combien de temps reste sa fille sur les écrans, quoi, ce qui est une bonne pratique au demeurant. Et donc, il demande à sa fille de venir manger parce qu'il y a leur oncle parisien qui est descendu les voir à Perpignan. Et juste avant que Mara ne descende, on a un moment d'interaction entre la mère de Mara, le père de Mara et le tonton parisien. Et c'est très drôle parce qu'en fait, en vraiment 5 minutes de dialogue, on a tous les clichés qui sont posés, tout le contexte social de la pièce qui est posé. Donc les parents plutôt prolétaires, le parisien qui vient de divorcer, qui séduit des petites jeunes et qui est trop content parce que en fait elles font autre chose machin, et le père à un moment il dresse un portrait de sa fille Mara qui a 13 ans, et en fait ils ont 3 enfants, donc Mara c'est la Benjamin et il y a 2 autres grandes filles, enfin elle a 2 sœurs aînées pardon, et en fait quand le père de Mara décrit sa fille, il dit oui, c'est n'importe quoi, elle est survoltée, elle parle que en IL, elle veut défendre les LBGT, enfin, c'est très très drôle, un peu caricatural mais vraiment très drôle, Et après, Mara descend et en fait, la pièce commence encore plus. On comprend mieux ce qui va se passer. En gros, il y a ce moment d'interaction où en fait, on sent que Mara, elle adore sa vie virtuelle et pas tellement l'IRL, quoi. Et elle quitte assez rapidement le dîner pour retourner jouer à son jeu vidéo et surtout aller se connecter à Discord. Peut-être qu'on va attendre la fin des sirènes, non ?
Franchement, je l'entends pas trop.
Ok.
On l'aura en fond de toute façon, mais il reste. Enfin,
ils vont. Mais je vais continuer alors. Et donc en fait, elle retourne jouer à ses jeux vidéo et elle se connecte à un serveur Discord, donc un logiciel pour... un logiciel. Un espace de chat, quoi. Et elle retrouve le mec qui était hyper séduisant dans le jeu vidéo qu'elle venait de rencontrer. Et en fait, tout de suite, on comprend qu'il va se passer un truc de l'ordre de la prédation parce que ce type est beaucoup plus âgé. Il s'appelle Julien, il a 27 ans.
Ouais,
et Mara, elle en a 13. Et en fait, il lui dit « Alors, qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi tes aspirations et tout dans la vie ?» Elle dit « Bah moi, je rêve de devenir actrice. » Et le mec lui sort un discours hyper Startup Nation. « Oui, moi, je vais t'aider et tout si tu le souhaites. » Puis elle dit « Bah je sais pas, mes parents, ils se méfient un peu des gens que je peux rencontrer sur Internet. » Et il lui dit « Non, mais attends, si pour en parler à tes parents, c'est pas la peine qu'on continue et tout machin. » Et en fait, il l'embobine très rapidement. Et elle tombe dans le piège et lui dit « En fait, moi, ce que je te propose, c'est de jouer à un jeu vidéo qui s'appelle Daddy et dans lequel je vais t'aider à devenir quelqu'un. Et tu vas devoir suivre un peu mes conseils, mes indications et tout. Et je vais t'aider à devenir une star, quoi. » Et elle, elle saute à pieds joints dans le piège et elle plonge dans ce piège qui est une forme de jeu vidéo, un peu comme du métavers, où en fait, elle ne joue pas un personnage qui serait très différent d'elle, mais elle joue elle-même dans le virtuel. Mmh. Et donc, en fait... au début de la pièce, on avait des moments sur un écran géant, puis sur scène, physiquement, matériellement. Et là, tout le reste de la pièce, à partir de ce moment de bascule, se passe vraiment sur la scène, mais on est dans le jeu vidéo. Donc c'est hyper compliqué à expliquer dit comme ça. Et en fait, sur scène aussi, c'est compliqué. Quand on est dans le théâtre aussi, c'est compliqué, mais c'est volontaire. Le but, c'est de faire quelque chose de très vertigineux où les frontières entre le réel et le virtuel se brouillent. Et c'est hyper intéressant d'un point de vue d'écriture, de mise en scène, et aussi d'interprétation. Et ce que je voulais dire, c'est que même les costumes sont intéressants parce qu'il y a plein de références différentes. Comment est-ce que tu fais comprendre les différences de classe sociale à travers quelques vêtements qui se veulent communs? Comment est-ce que tu fais comprendre qu'on est dans un jeu vidéo? Comment est-ce que tu fais comprendre aussi des références à des moments de pop culture, des films, des séries et même des clips? Parce qu'il y a des moments dans le jeu vidéo où en fait sont rejouées des scènes cultes de cinéma. Notamment, ce que j'ai reconnu assez facilement, c'était une scène d'entretien avec un vampire. Qui était hyper rapide. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de contexte, en fait. Et c'est volontaire. Enfin, c'est hyper égarant, vertigineux et déroutant. Et tout ça pour dire que se joue une relation d'emprise, de manipulation, de prédation entre Mara, qui a 13 ans, et Julien, qui en a 27, qui joue aussi dans le jeu vidéo et qui lui demande de faire des choses à multiples reprises qui sont de plus en plus sexuelles, en fait. Et voilà. Et donc, c'est une pièce qui interroge, donc... cette virtualisation des relations, et c'est aussi tous les mécanismes de prédation qui peuvent exister en réel mais aussi en virtuel. Et en fait, Internet, c'est aussi la vraie vie, rappelons-le. Et ça, en toile de fond, on a aussi tous ces enjeux de classe sociale qui est assez intéressant à regarder et qui est vraiment esquissé, mais on comprend, il y a beaucoup de violence en fait dans tout ça. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que il y a aussi plein de moments hyper oniriques, en fait, assez étonnamment, notamment avec Jennifer Gold qui danse dans la pièce, qui a 2-3 reprises de manière presque gratuite, en fait. Quoique, pas tant que ça, parce qu'en fait, ce qui est aussi interrogé dans la pièce, c'est presque un truc de l'ordre de la rivalité féminine qui est tout le temps mise en scène, à l'écran, et pas que. Et en fait, Mara, quand elle l'est recrutée dans ce jeu, c'est clairement une Lolita, en fait. C'est la figure de la Lolita, de la nymphette, qui est très jolie, qui va plaire à des hommes plus âgés, parce que les hommes plus âgés sont des porcs. Et en gros, c'est... qui veulent l'exploiter, en fait. Voilà. Et en fait, quand elle rentre dans ce jeu, il y a d'autres femmes qui étaient déjà là, qui se sentent reléguées au second plan, voire au troisième plan, parce qu'elles sont moins jeunes, moins fraîches, moins jolies. Et que les hommes veulent de la chair fraîche, en fait, et qu'ils veulent payer pour avoir cette chair fraîche-là. Et en fait, ça parle aussi de marchandisation des corps. Et en fait, au moment où Julien propose initialement à Mara de rejoindre ce jeu vidéo, je m'attendais à ce que ça ressemble à OnlyFans, parce qu'il lui disait « Oui, je vais faire de toi une star, tu vas avoir une fanbase qui va te payer, c'est ça qui va t'aider à devenir quelqu'un. » Et ben, je m'attendais à ce qu'il lui fasse quelque chose comme ça. Et en fait, c'est beaucoup plus méta et beaucoup moins évident. Et c'est ça qui rend ça beaucoup plus philosophique et abstrait et réflexif. Et voilà, je vous en dis pas plus, mais en gros, ça va tourner, donc vous allez pouvoir voir la pièce en région. Et ce que je pouvais vous dire aussi, c'est que bah, c'est extrêmement bien joué. Enfin, pour vous dire rapidement, donc, la personne qui joue Mara, donc Mara, le personnage a 13 ans, et la comédienne, elle en a 15, elle s'appelle Lila Ouel. Et vraiment, j'étais scotché, enfin, c'est hyper... ça devait être une pièce hyper difficile à jouer aussi, parce que c'est assez violent par moments. Enfin, il n'y a rien de violent sur scène, mais c'est psychologiquement violent. La scène de fin est très téléphonée. Je ne sais pas à quoi tu fais référence, mais...
Oui, mais téléphonée, mais violente quand même.
Mais...
Il y a quand même des violences, enfin...
Il y a un moment de violence physique assez important qui est très kitsch volontairement, je trouvais, mais...
Oui, bien sûr.
Mais qui, enfin, je trouve ça limite beaucoup moins violent que toute la violence psychologique qui précède, en fait.
Je comprends, mais c'est pas pour ça que ça existe.
Mais en tout cas, effectivement, si ça, vous êtes très sensible aux questions de violence sexiste et sexuelle et que ça peut vous faire quitter une scène, un spectacle, pardon, bah peut-être n'y allez pas. Mais ou en tout cas, si vous êtes très très disposé à recevoir ce genre de messages, allez-y en étant préparé, quoi. Donc trigger warning, violence sexuelle sur mineurs, quoi. Mais c'est évoqué, mais rien n'est montré. Voilà, et ce que je peux vous dire aussi, donc voilà, Lila Ouel est vraiment extraordinaire. L'homme qui joue Julien, qui a 27 ans, et ben dans la vraie vie, le comédien a aussi 27 ans, il s'appelle Louis Pérez. Et sinon, dans le reste de la distribution, il y a Charles-Henri Wolf qui joue plusieurs rôles, dont celui du père, Lou Chrétien en février, et Émilie Cazenave. C'est un texte de Marion Sieffert et de Mathieu Barrère, et c'est une mise en scène de Marion Sieffert. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Ah oui, et aussi ce que j'allais dire, c'est que en fait, moi, quand j'ai vu Daddy qui allait être joué à l'Odéon, mon esprit était sur Jeremy O'Harris, qui est un dramaturge états-unien afro-américain, qui n'a jamais joué en France, en fait, je crois. Et du coup, quand j'ai vu ce nom de pièce, et en fait, il a une pièce qui s'appelle Daddy, qui est extrêmement célébrée aux États-Unis actuellement. Et je me suis dit, ah, mais ça va être ça et tout, j'ai trop hâte de voir cette pièce. En fait, ce n'est pas du tout ça. Et du coup, j'étais trop dégoûté au départ. Et je me suis dit, bon, je vais quand même aller la voir et tout. Parce qu'entre temps, j'ai rencontré Jennifer Gold et qu'on avait bien matché. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais la voir. Et c'était vraiment extraordinaire. Mais quand je suis sorti de la pièce, j'ai débriefé avec ma meilleure pote parce qu'on n'était pas sûr d'avoir compris, en fait. Et je pense que ce n'est pas le but. Enfin, vous attendez pas à tout comprendre, quoi. Et voilà, c'était vraiment une expérience vertigineuse, quoi.
Moi, j'avoue que j'ai eu des moments où j'étais sceptique, etc., parce qu'il y a énormément de choses, c'est très dense, du coup presque brouillon parfois, mais je pense que c'est un peu délibéré, comme tu le dis. Et par contre, je vais pas la spoiler évidemment, mais c'est peut-être une des meilleures fins que j'ai vues au théâtre. Enfin, vraiment, à la fin, j'étais en larmes sur ma chaise et genre incapable de me calmer parce que je pense toute la tension accumulée, etc., c'était la façon dont les frontières réelles, irréelles justement sont pensées est vraiment brillante dans la pièce. Et Marion Sieffert est vraiment connue pour le coup bien parler de l'adolescence et bien parler des jeux vidéo. C'est une des rares dans le théâtre qui l'aborde aussi frontalement. Elle est connue pour avoir fait Jeanne d'Arc. D'Arc qui s'écrit comme sombre et qui était en live sur Instagram. C'est quelqu'un qui n'a pas peur des nouvelles technologies et Dieu sait que dans le théâtre c'est rare. Et du coup, j'en ai parlé dans une petite vidéo sur mon profil. Je fais un petit moment de promo et ça passera au théâtre des Célestins et ça aussi, je vous en parle dans une autre vidéo sur mon profil, Théâtre des Célestins, qui est un des gros théâtres de Lyon et qui va programmer ça et qui ressemble vraiment beaucoup au Théâtre de l'Odéon, donc vieux théâtre à l'italienne. Et je sais que Marion Sieffert a insisté pour que ce soit mis en scène, enfin que ce soit vraiment porté là-bas, dans cette salle spécifiquement, et pas aux Ateliers Berthier, qui est une autre salle du Théâtre de l'Odéon et qui est beaucoup moins... beaucoup moins connoté prestige, etc., théâtre avec un lustre, quoi.
Mm-hmm. Bah d'ailleurs, à ce sujet-là, le fait que ce soit joué à l'Odéon, c'est intéressant parce que t'as dit que toi t'as pleuré à la fin, Mathis. Et en fait, quand moi j'étais à l'Odéon, il y avait donc un public qui était assez âgé, parce que c'est une pièce, un théâtre qui est dans le 6e arrondissement, qui brasse un public assez bourgeois, etc. Ouais. Et en fait, le public m'est rié à des moments que je trouvais violents.
Je suis d'accord.
Et moi, à la fin, le public riait. Et du coup, j'étais hyper estomaqué. Avec ma meilleure pote qui appartient à la même génération que moi. Et je me suis dit, mais en fait, là, je pense qu'il y a un truc de génération où, en fait, quand ce public plus âgé voit une femme être leurrée par un homme, et je dis une femme, mais en fait, elle a 13 ans, encore une fois, donc une enfant être leurrée par un homme plus âgé, ils sont morts de rire. Et alors que ma pote et moi, on était ultra gênés. Et je me suis dit, mais ça dit long sur la culture du viol et sur aussi à quel point notre culture est enracinée dans... dans les violences sur mineurs, en fait. Les violences sexuelles sur mineurs.
Ça, puis le classisme des rires aussi. Enfin, oui, genre aussi. Des moments où il y a des gens qui riaient sur des trucs et j'étais en mode, les amis, ce qui se passe sur scène, Enfin, moi, je le trouve très réaliste. Il y avait plein de trucs où j'étais en mode, j'ai vu ces gens-là, ça a été des voisins ou des parents d'amis, etc. Et du coup, genre, j'étais en mode, enfin, je trouvais ça très plausible. Et j'ai un pote qui a été le voir. Enfin, un pote. J'ai coupé ça. J'ai une personne que je connais qui a été le voir et qui, pour le coup, est complètement passée à côté de la pièce en disant oh non, mais c'est bon, c'est téléphoné. En fait, on en a marre d'entendre parler de patriarcat, de mépris de classe, machin et tout. J'étais, tu sais que c'est pas des sujets, enfin, c'est des réalités pour plein de gens, c'est pas juste des sujets d'actualité. Et je trouve que la scène, enfin, la pièce remet vraiment de la chair là-dedans et que les dialogues, du coup, sont très réalistes. Et si tu viens chercher de la poésie, machin et tout, il y en aura beaucoup plus dans la mise en scène à proportion que dans le texte qui, pour le coup, est assez cru et assez clair à chaque fois, je trouve, surtout au début en tout cas.
Oui, effectivement, les moments les plus explicites sont au début de la pièce et ensuite on va de... En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu parlais tout à l'heure du choix de l'Odéon dans le sixième, c'est que il y a toute une mise en abîme de la mise en abîme de la mise en abîme du jeu théâtral et du jeu vidéo et du jeu de la séduction. Et c'est hyper intéressant. Et sur la question, pardon, je voulais faire une référence avant d'oublier des violences sexuelles et des violences sexuelles sur enfants, je suis désolé, mais c'est important de le dire aussi. Il y a un livre magistral qui s'appelle Le berceau des dominations, Anthropologie de l'inceste, de Dorothée Ducy, qui fait clairement office d'ouvrage de référence sur la question. Et ça parle pas que d'inceste, mais ça raconte aussi à quel point, comme le dit le titre, en fait, c'est que les violences sexuelles sur enfants, c'est le berceau de toutes les dominations presque. Mmh. Enfin, c'est hyper important de s'en rendre compte aussi, et c'est ce qui ressort aussi en partie de MeToo, quoi.
Le lien sera dans les
bio. Des ricochets de MeToo. Mais effectivement...
Le lien sera dans la description et pas dans la bio.
Mais voilà, c'était juste pour vous recommander chaudement cette pièce et qui est vraiment extraordinaire. Ah oui, et sur Jérémy O'Harris, ce que je voulais dire aussi, c'est que Jérémy O'Harris, qui est dramaturge états-unien, il a une pièce qui s'appelle Daddy aussi, qui n'est pas jouée en France, hélas. En revanche, je vous recommande un podcast qui est assez surprenant, c'est le podcast de Emily Ratajkowski, qui s'appelle...
Ratajkowski.
Qui s'appelle The High Low with Emrata. Et en fait, dans High Low with Emrata, elle a interviewé Jérémy O'Harris et l'interview est hyper intéressante. Et moi, j'attendais rien d'Emrata, je la connais pas personnellement, ni même je la suis pas sur les réseaux et tout. C'est une mannequin qui a été notamment révélée par le clip Blurred Lines de Robin Thicke avec Pharrell Williams, un clip extrêmement controversé et sur lequel il y a eu une agression sexuelle en fait de la part du chanteur sur la mannequin, comédienne et influenceuse Emily Ratajkowski. Et elle a aussi joué dans Gone Girl. Mais bref, et du coup, elle a ce podcast qui est hyper intéressant où elle interviewe des personnes hyper inattendues, et notamment ce dramaturge. Et l'interview est géniale, quoi.
Trop bien.
Voilà, trop long kiff, je suis désolé.
C'est l'épisode le plus référencé que vous avez depuis longtemps, avec énormément de choses dans la description.
Je me suis retenu de faire 4 autres refs. Mais...
Bon, je termine. J'essaie de terminer brièvement, mais pareil, ça pourrait être dense, donc je vais essayer d'être assez clair. Mon kiff de mon côté, c'est d'avoir pu interviewer et lire le livre Les Humiliés. Je mets déjà l'interview, le lien dans la description. En gros, Les Humiliés, c'est un livre qui est sorti il y a, je ne sais pas combien de temps, parce que quand est-ce que sortira cet épisode, c'est toujours la grande question, qui est sorti au mois de mai et qui sort 10 ans après La Manif pour tous et les débats autour du mariage pour tous. C'est un livre de Rosane Le Carboulet, qui est une journaliste lesbienne qui est connue pour le podcast Queer sur Nouvelles Écoutes et notamment la dernière saison du podcast qui parlait plus spécifiquement de La Manif pour tous avec Au nom du fils, où en gros elle interviewait Augustin, qui aujourd'hui a 19 ans et qui en gros, quand il était enfant, était à la manif pour tous, traîné par ses parents, sauf qu'aujourd'hui, Augustin est gay, la tuile. Et du coup, elle interroge la famille, etc., et revenait là-dessus. Et en fait, ce travail-là, elle l'a complètement poussé dans Les Humiliés, en allant interviewer des gens qui étaient au gouvernement à l'époque, notamment François Hollande, du coup, qui était président de la République quand c'est passé. Christiane Taubira, elle n'a pas forcément interviewé, mais du coup, elle a différents sons de cloche. Et à côté, elle va avoir aussi des analyses de chercheurs, de chercheuses. Il y a notamment Éric Fassin, qui est quelqu'un dont j'aime beaucoup le travail, qui est sociologue, et qui parle beaucoup de genre et tout ça s'est confronté aussi avec son expérience, elle, de journaliste à l'époque, de jeune journaliste qui travaillait du coup à l'Obs et à donc l'Observateur, et notamment à une rubrique de l'Obs qui était une rubrique un peu de débat, un peu de journalisme participatif, comme ça a été une grande mode il y a quelques années, il y a une dizaine d'années en fait, avant que ça se perde un petit peu. Et en fait, ce qui est intéressant par rapport à ce point de vue justement là, c'est interroger au travers de la médiatisation de La Manif pour tous, la façon dont la gauche, au nom du débat, de vouloir faire entendre toutes les voix, etc., en fait, a déroulé le tapis rouge à des propos qui n'étaient pas juste des opinions, mais qui étaient discriminatoires et qui étaient extrêmement violents. Et surtout à des moments où, en fait, il n'y a pas d'instance de régulation. C'est-à-dire que dans le cas de la présidentielle, évidemment, il y a la régulation du temps de parole, etc. Là, c'est vraiment des choix qui ont été faits de la part de rédaction. Et elle fait notamment allusion à un truc qui est assez clair, je crois qui était même après la manif pour tous, où un média avait fait un espèce de sondage en mode « S'il y avait une nouvelle manif pour tous, est-ce que vous iriez ?» Ce qui est quand même incroyable. C'est quand même une façon de provoquer l'actualité et de chercher à la générer qui est quand même, enfin, qui, moi, m'interroge en tout cas. Donc voilà, cette journaliste-là, en fait, je trouve qu'elle trace une série de portraits assez sensibles d'histoire, et en même temps, elle revient sur, du coup, les grandes dates du truc. Mais voilà, c'est pas un bouquin historique où vous allez juste avoir les étapes législatives du truc. C'est un bouquin qui met vraiment de la chair des vécus là-dedans, d'où le titre. Le titre, en fait, c'est une citation d'Emmanuel Macron qui est revenu par rapport à qui est revenu sur cette loi, justement, en en parlant, en disant que François Hollande n'avait pas très bien fait le travail, en gros. Donc on pourrait se dire, ah, il va critiquer peut-être le fait que François Hollande ait rétropédalé, n'ait pas donné la PMA. Ah, peut-être qu'il va critiquer le fait que François Hollande ait parlé de liberté de conscience pour les maires, autorisant du coup, de fait, certains maires à refuser de célébrer des mariages homosexuels. Ah, peut-être qu'elle va parler du fait que François Hollande n'ait pas inclus, en fait, les personnes trans à plein d'aspects de cette loi, etc. Ou qu'il ait laissé des débats nauséabonds, en fait, avoir lieu à des moments où, en fait, c'est... Encore une fois, c'était pas des opinions, quoi. Et en fait, non, la citation d'Emmanuel Macron dit qu'il y a une partie de la France, une partie de la population qu'on a humiliée, et cette partie de la population à laquelle il fait allusion, c'est notamment les gens de la Manif pour tous. Et en fait, les humiliés s'écrit .e.s dans la version de Rosane Le Carboulec, parce que justement, en réponse à ça, elle reprend ce terme pour justement désigner toutes les personnes LGBTQIA qui ont pu être... évidemment offensé directement par ces débats, mais aussi toutes les personnes plus spécifiquement de la communauté qui du coup étaient dans les manifs parce que elles étaient jeunes, traînées par leurs parents, mais aussi les lesbiennes à qui on a promis plein de choses et à qui finalement il y a eu des années avant que soit vraiment octroyée la PMA. Enfin, je dis octroyé, voilà. Mais c'est intéressant parce qu'en plus, elle permet, je trouve, de mettre fin à pas mal de mythes qu'on a pu avoir. Je pense notamment à la une de Cosette récemment. Cosette récemment a mis François Hollande avec une écharpe de maire en train de marier un couple de lesbiennes, couple qui était joué par des comédiennes, sur la une qui apparemment, d'un dossier qui apparemment est plutôt qualitatif, me disait Rosane Le Carboulec, et dans lequel elle a écrit, etc., juste... très mauvais choix de une. Et en fait, le problème de cette une, c'est vraiment faire croire à ce mythe que perpétue évidemment les anciens du gouvernement, etc., on a été là dans notre grande mansuétude à donner des droits aux personnes LGBT+, alors qu'en vrai, non, ça faisait des années que des associations avaient gueulé et qu'il a fallu que des meufs comme Alice Coffin créent le collectif Oui, 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 Oui à la parité, Oui au mariage et Oui à l'adoption. À la parité, je dis n'importe quoi. Oui à la PMA, oui au mariage, oui à la... Non, bon, je vais enlever, je vais pas préciser, je me souviens plus du troisième oui. Du coup, des gens comme Alice Coffin et plein de militants en général qui ont créé des collectifs, donc Alice Coffin, dans son cas, c'est le collectif Oui, 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 et qui ont vraiment poussé et fait pression, en fait, pour que, justement, ces droits puissent être obtenus ou qu'on puisse faire des gestes un peu symboliques forts, notamment dérouler des grosses affiches « Coucou les homophobes » au-dessus des gens de la Manif pour tous, qui permet aux journalistes de prendre une super photo avec le groupe devant. Et qu'importe ce qu'ils ont pu dire avec leur pancarte ou essayer de se justifier de « Mais non, on n'est pas homophobe », ça devient un peu compliqué et c'est un peu drôle. Et une des dernières choses qui est intéressante dans le livre, c'est toute l'analyse de stratégie de la Manif pour tous en elle-même, qui en fait était très organisée, très hiérarchisée, et qui a, à la fois elle s'inscrit dans un grand continuum de mouvements réactionnaires envers les personnes LGBT, donc elle pense à tous les débats sur le Pax, évidemment, mais aussi tous les débats autour de la supposée théorie du genre, débats du coup qui dénoncent, donc c'est des gros débats de droitos, mais qui sortent de nulle part, qui sont des paniques morales, où on va dénoncer le fait que la gauche, dans les écoles, elle parle de la théorie du genre à nos enfants, et pousser à l'extrême ce genre de posture, ça donne ce qu'on voit aux États-Unis évidemment, mais ce qu'on voit en vrai déjà en France et en Europe à pas mal d'aspects. Et donc, continuité avec les débats sur le Pax, continuité sur tout ça, etc. Et en même temps, une stratégie qui est vraiment propre à la question du mariage pour tous, qui est un groupe qui a vraiment essayé d'esthétiser son truc et un peu se déringardiser. C'est-à-dire qu'il voulait échapper à l'image de John Cato bien peigné. Bon, rétrospectivement, c'est quand même un peu raté du cul. Mais voilà, ils ont voulu échapper à ce truc de cliché, etc., en essayant de s'encanailler. Il y avait des consignes très claires de messieurs.
Laissez-vous pousser la barbe.
Voilà, laissez-vous pousser un petit peu une petite barbe de 3 jours. Ouais. Évitez les serre-têtes. Enfin, voilà, des trucs. Mais hilarant en vrai quand on y pense, évidemment à l'époque, enfin avec le contexte et tout ce que ça implique, c'est loin d'être drôle, mais je trouve ça quand même un peu gaulerie qu'ils aient essayé de se déguiser entre guillemets et qu'ils aient repris des codes de la Pride, des codes de la marche des fiertés, c'est-à-dire avoir des chars, avoir des codes couleurs claires, etc. Enfin, c'est quand même aberrant que ces gens se soient réappropriés la culture contre laquelle ils ont quand même manifesté, enfin voilà. Du coup, et voilà, cite plein de trucs intéressants et cite aussi des perspectives, encore une fois, sur le mariage que moi, j'avais pas vu comme argument à l'époque. Il faut aussi dire que le mariage pour tous, moi, au débat, à l'époque où il y a eu tous ces débats, je me souviens qu'évidemment, j'étais pour le mariage et que je trouvais aberrant la question de la manif pour tous. Je pense que j'étais pas out du tout. Du coup, j'étais un allié un peu trop investi à l'époque. Mais je voyais ça depuis une petite ville où il n'y avait pas une manif, évidemment, et tout. Donc, je voyais ça vraiment de très loin. Et j'ai vraiment les images qui me sont restées. C'est pour ça que je trouve d'autant plus intéressant qu'elles soient analysées, contextualisées. Et derrière ça, encore une fois, c'est ce que je disais, je vais finir là-dessus, elle parle des vécus des gens derrière ça. Et il y a un témoignage notamment que je trouve bouleversant de, en fait, ce que concrètement ça fait de ne pas avoir le droit au mariage. C'est pas juste un caprice, c'est, elle parle de couples de mecs, y en a un qui avait le sida qui est mort. Pardon, j'ai coupé mon micro. Il y en a un qui avait le sida qui, du coup, est mort des suites de la maladie. Et son partenaire, du coup, s'est retrouvé du jour au lendemain sans rien. Parce que légalement, il y avait pas de preuves. Mmh. Et en fait, comme c'est l'autre qui avait le logement en son nom et les meubles, etc., bah du coup, il a rien eu. Et il y avait une lampe qui avait une valeur affective, typiquement. Je crois que c'est Daniel Borio qui raconte ça dans le livre. Et ben, en fait, même cette lampe qui avait une valeur affective, comme sa belle-mère était fondamentalement homophobe, il a pas pu partir avec. Donc, il lui reste rien matériellement de son partenaire, ce qui est en fait tragique, quoi. Et voilà, je trouve que c'était un bel hommage, je trouve, ce livre à au vécu de plein de personnes qui ont vraiment été en effet humiliées et qui permet d'ouvrir aussi sur les paniques morales actuelles qui visent beaucoup les personnes trans et qui en fait sont pas moins destructrices, pas moins graves et contre lesquelles il faut tout autant s'insurger. Et voilà, je trouvais que c'était un travail qui était dingue et l'interview est disponible sur mademoiselle.com. Ça s'appelle Les Humiliés, c'est de Rosane Le Carboulec.
Et d'ailleurs, quand elle parle d'Augustin et lui-même se décrit comme ça, elle parle de rescapé. Enfin, c'est hyper fort comme terme. Et dans ton interview et dans le livre, ce qu'elle explique aussi très bien, qui est hyper intéressant, je trouve, c'est qu'en fait, pour le cas du mariage pour tous et de la manif pour tous, en fait, on n'arrêtait pas d'appliquer les journalistes, les rédactions, appliquer une espèce de symétrisation des débats en mode « Ah, on va prendre des gens qui sont pour et des gens qui sont contre et tout. » Alors qu'en fait, c'est hyper grave. Enfin, c'est pas, nos existences ne sont pas un débat et cette question-là non plus n'aurait pas dû l'être, en tout cas, sachant que la majorité des Français et Françaises étaient pour. Donc c'est vraiment hyper dommage que autant de violences se soient déchaînées. Et ce que tu viens de dire en conclusion, Mathis, c'est hyper important et je voulais le souligner, c'est qu'en fait, l'histoire est en train de bégayer sur les personnes trans et les droits des personnes trans aujourd'hui en France. Et que là, on assiste à une explosion de violences LGBTI-phobes et que plusieurs centres LGBT ont été attaqués. Enfin, c'est des attaques terroristes, en fait. Juste les médias n'osent pas employer le terme. Et que c'est hyper grave. Enfin, même là, on enregistre le 25 mai, bah oui, le Bonjour Madame qui a un café queer à Paris, plutôt lesbien, et a été attaqué. Enfin, j'ai dit attaqué, lapsus révélateur.
Par des flics.
Ouais, voilà, et c'est la deuxième attaque. Enfin, la deuxième. Je sais pas comment dire autre chose que attaque, mais. Enfin, en quelques semaines. Donc, c'est hyper inquiétant. Enfin, c'est en France aujourd'hui. Ça devrait nous inquiéter partout. Mais notamment en France, quoi. Enfin, voilà. L'histoire bégaye, il faut en avoir conscience.
Absolument. Et contre ça, heureusement, il y a les humiliés, il y a plein de représentations qui sont en train de changer, il y a plein d'artistes qui essaient de défendre des œuvres qui permettent de lutter contre ça. Dadi en fait partie. Et d'ailleurs, sur le numérique, j'y ai pas pensé à ce moment-là, mais j'ai vu une pièce hier soir qui s'appelle Trigger Warning et qui devrait passer jusqu'à début juin à Paris et tourner ensuite de Marcos Caramés Blanco, qui du coup a écrit une pièce qui est assez chouette, qui parle du coup justement de l'adolescence, du numérique et de tous les risques que ça a, notamment de la question du slut-shaming, des nudes, etc. du fait de se genrer de telle ou telle façon. Plein de sujets intéressants dont je vous parle prochainement dans des vidéos ou ici dans LMK, on ne sait pas. En tout cas, c'est la fin de cet épisode parce qu'il fait très chaud et que je suis un peu en retard. Désolé pour ce moment un peu lourd à la fin. Mais voilà, on est là pour vous remonter le moral. On est là pour vous proposer plein d'œuvres, plein de gens qui vous permettent de lutter, de rire avec Fleabag, de militer. Je vais arrêter d'essayer de faire une conclusion. Je ne sais pas faire ça. Au revoir tout le monde.
Très belle
conclusion.
Merci Mathis.
Merci beaucoup.
Extraordinaire, bravo.
En tout cas, en attendant la semaine prochaine, touchez-vous bien le kiki.
Ouais, quand même pas en brief.
J'avais décidé de faire du chaos. On fait du chaos.
On m'a pas dit. Bisous la LMK.
Salut.
Ciao.
C'est chaud.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.